pouvez nous faire sentir un premier petit flacon ?
Oui, l'odeur n'est pas très radiophonique, mais ce sont quelques matières premières que je suis en train de sélectionner pour un parfum auquel je pense. Donc voilà, là je peux vous faire sentir, ben, ça c'est une molécule issue des essences de feuilles de mandarinier. C'est le N-méthylanthranilate de méthyle, vous voyez. Et puis j'ai d'autres produits naturels également. Ça, c'est un résinoïde, l'abdanum. C'est très, vous voyez, c'est très agréable, ça, pour des notes chyprées.
Ça vous fait penser à quoi, Boris Rowe ?
À l'univers oriental. On est sur un voyage vraiment en Turquie ou... proche du désert, d'une oasis.
C'est effectivement très oriental comme note. Alors là, c'est une note en principe qui n'est pas... Je ne vais pas pouvoir l'ouvrir, vous allez voir.
Ça, c'est les quelques flacons qui traînaient sur votre bureau.
Sur mon bureau. Vous voyez, ça sent... C'est une odeur alimentaire, c'est du cacao. Alors, dans ce prochain parfum, j'ai l'intention de mettre du cacao et du café dedans, vous voyez, pour changer un peu.
Vous reconnaissez le cacao, Marie Payen ?
Pas du tout. Café pour moi, mais je suis déformée sans doute, j'aime trop le café.
Alors ça, c'est un produit naturel également, c'est quelque chose de très rare. C'est de l'agaroud, c'est une essence d'un arbre spécial qui pousse pratiquement qu'au Vietnam ou au Tibet. Et c'est une odeur qui est très prisée par tous les orientaux, et notamment en Arabie Saoudite où il y a un marché, mais ça vaut 50 ou 80 000 francs, 80 000 euros le kilo.
Attention, Patrick Léode. Là, dans la main, ça vaut très, très cher.
Non, celui qui est très cher, je l'ai déjà passé. Celui-là, il est normalement cher.
Ah, vous avez tout raté. Il y a combien de matières premières pour le parfum ? Vous allez additionner combien de matières premières ?
Oh, vous savez, actuellement, enfin maintenant, depuis quelques décennies, on travaille beaucoup plus simple. Dans les années 70, on travaillait avec 300-400 produits pour un parfum. Maintenant, on essaye de travailler avec entre 40 et 60 produits différents, ce qui est beaucoup mieux parce qu'on maîtrise beaucoup mieux les produits et savoir s'ils ont leur place ou pas. Quand il y a beaucoup trop, quand c'est trop confus, on n'arrive plus à maîtriser ce qu'on fait, quoi.
Vous avez une idée du nom du parfum que vous êtes en train de réfléchir ?
Non, absolument pas. De toute façon, on ne le sait jamais. Mais là, je travaille pour un ami, c'est différent. Mais lorsque j'étais vraiment dans le circuit de la parfumerie de luxe, on travaille pour les grandes marques et on ne sait jamais ni comment ça va s'appeler, ni la forme du flacon, ni rien du tout, quoi. On travaille d'une façon très aveugle, si l'on peut dire.
Lançons un dernier.
Un dernier. Ça, c'est de l'encens. Vous voyez, je tourne autour des produits méditerranéens et orientaux. Donc, je sens que je vais faire quelque chose d'assez riche, d'assez chaud, d'assez oriental, quoi, d'une règle générale.
C'est quoi comme pays pour vous, ce dernier ? Cette dernière odeur, Boris Rowe ?
On est. Moi, j'aurais dit la Grèce, mais on est un peu aussi en province. Mais vous tournez vers l'orientaux et méditerranéen parce que vous créez votre parfum pour quelqu'un qui est
parce
de cette.
C'est un peu, si vous voulez, le brief, quoi. Hein. C'est un peu la demande. C'est essayer de faire. J'ai pas beaucoup de contraintes, mais enfin, j'ai quand même des indications générales. Donc, il faut faire quelque chose de Mare Nostrum, vous voyez, mer Méditerranée et croissant fertile.
Je veux que tout change.
Mmh. On aurait aimé envoyer à chaque auditeur un papier odorant, mais alors à la place, voilà l'image que pour vous nous faisons pour que vous vous fassiez le parfum. Cette émission ce soir sentira le champ de jasmin, la plantation de jasmin. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette odeur en quelques mots, Maurice Morin ?
Oui, la plantation de jasmin. Il faut dire que j'ai commencé ma carrière, les 10 premières années de ma carrière, comme chimiste, si vous voulez, et agriculteur de plantes à parfum un peu partout dans le monde. Et j'ai eu à m'occuper à une époque près d'une centaine d'hectares de champs de jasmin en Algérie. Et c'est quelque chose d'assez fabuleux parce qu'il y a une concentration d'odeurs et puis il faut savoir que les fleurs naissent et meurent chaque jour. Donc il faut, entre la naissance et la mort, il faut les ramasser, quoi. Donc à partir de 2-3 heures du matin, vous avez des milliers de femmes, d'enfants qui sont en train de ramasser les fleurs et il faut que... si vous voulez, à 8h, 9h du matin, avant que le soleil soit trop fort, que tout soit ramassé. Parce que si on le laisse, après, la fleur va sentir l'animal, va sentir vraiment. C'est une odeur impossible à extraire après. C'est plus possible.
Et s'ouvre l'atelier intérieur et s'ouvre les corolles. C'est l'impact de milliards de molécules sur des milliards de récepteurs qui fait l'odeur. Nos sens sont chimiques, même si celui de sentir est conditionné par la vie que l'on a menée. Nous n'avons pas de vocabulaire commun pour dire et décrire. Le parfum est forcément privé, lié à un état d'âme passé. L'image de départ ce soir serait celle-là, alignée sur une commode, un savon, un parfum, un démaquillant, un soin. C'est un portrait olfactif, celui de Paulette, et c'est une photo de l'artiste Boris Rau. Le corps se trouve exactement là, entre son odeur naturelle et l'artificielle, entre lui et sa parure. Puisqu'arrêter de sentir, c'est arrêter de respirer, c'est arrêter d'exister, l'odeur est le témoin de la vie. Il faut la préserver, comme la sueur de l'être aimé. On se hume avant de s'aimer. Il faut, une fois aux mains, connaître une peau, jusqu'à savoir les nuances qu'elle donne, au fil des heures, à son parfum. Le parfum est un discours, formulé la première fois par son créateur. Ce soir, on aimerait imaginer un parfum en soi et pour aucun flacon. Une fragrance choisie pour l'instant, et sans épate, une essence. Imaginons l'émission en odorama, en parfum, c'est-à-dire à l'aide de la fumée, puisque c'est un art du sillage, de pouvoir exister une fois éclipsé, de pouvoir être aimé juste après, inspirer, expirer, le rythme est bon, c'est le cœur des jeunes gens et de sa transpiration. Pour l'alchimie et son dosage précis, voilà ceux qui sont là, un parfumeur ou plutôt un créateur de parfums. Vous l'avez entendu, Maurice Morin est un nez et il rêvait de monter un conservatoire, d'initier les élèves à la beauté, d'ouvrir ses carnets et de leur passer le relais, de faire du parfum un art. On peut le lire dans La sagesse du créateur de parfums chez L'œil neuf édition. Pour le parfum dans l'art, Boris Rau, jeune artiste plasticien qui met la sensation olfactive au cœur de ses photos et installations. Pour les molécules et l'image cérébrale, Patrick MacLeod, spécialiste, attention, pas des parfums, mais des odeurs, et c'est encore plus vaste. Pour l'évocation d'une image à soi, par la chanson, c'est Marie Payen et Raphaël Chassin. Le chemin ce soir est la recherche d'un parfum, depuis sa note de tête pour atteindre sa note de fond, espérant toucher au passage la note de cœur. Temps d'évaporation, une heure, extinction de la fumée à minuit. La Radiorama commence maintenant.
La sola, yeah, la sola.
Les filles dans le vent aiment l'insolent, parfum d'une insolente jeunesse. Pour plaire, pour séduire, pour charmer, pour éblouir.
L'insolent.
Parfum d'une insolente jeunesse.
L'insolent.
Un cadeau insolent, parfum très jeune, eau de toilette très fraîche.
L'insolent.
Les filles aiment le parfum, les filles aiment l'insolent. Offrez-leur.
L'insolent.
Parfum, parfum d'une insolente fraîcheur.
Yeah, l'insolent.
Parfum d'une insolente jeunesse.
Yeah, l'insolent.
J'ai voulu le voir, le recevoir, parce qu'il n'y a pas si longtemps, je l'ai vu dans le film de Werner Herzog, La grotte des rêves perdus. Il n'était pas dans un laboratoire de flacons, non, mais dans la forêt, il parlait des odeurs d'avant, il y a des milliers d'années, de celles disparues, qui, si elles étaient repérées, pouvaient annoncer d'autres cavités. Il était dehors et dans la matière. Il était dans le réel des odeurs, comme tout au long de sa vie, que l'on peut lire dans la sagesse du créateur du parfum. Maurice Morin, parfumeur, a écrit « C'est presque un hasard géographique qui lui a fait tout sentir. Il grandit près de Grasse et après des exercices de création pour réussir une rose thé ou un jasmin vert et sans modèle, en 1968, il a son agrément, monte à Paris, devient parfumeur. Et une fois à l'intérieur de chez lui, si on ouvre l'armoire à deux battants, on trouve des classeurs remplis de formules, des milliers d'odeurs répertoriées, des additions, des compositions et donc des souvenirs. À noter le numéro 515, premier grand parfum. Maurice Morin, vous êtes venu avec vos matières premières ce soir et vous parlez dès la première page du livre de souvenirs d'enfance et d'une image très sensuelle et très, très charnelle quand vous aviez 8 ans.
Oui, ça c'est une image olfactive très importante. C'était dans la haute vallée du Var, dans les Alpes-Maritimes, le 17 ou le 18 août 44, c'est-à-dire 3 jours après le débarquement des Alliés à Saint-Raphaël. Et je me souviens d'un commande-car qui est arrivé dans le village. Les 4 ou 5 soldats ont coupé le contact et sont restés peut-être une minute ou deux sans bouger. Et là, j'ai eu une odeur que je me souviens encore. Quand j'y pense, je la sens. C'est une odeur d'huile, d'essence, je dis également de Lucky Strike, de sueur et de chewing-gum, mais de la spermine des chewing-gums des Américains. Vous voyez, j'ai cette image de la voiture, des soldats et l'odeur, tout ça dans un contexte d'un village. Et je me souviens toujours de cette odeur, disons que ça... J'ai tout le temps pensé à cela, dans toute ma carrière, c'est revenu. Donc c'est un peu, si vous voulez, comme une madeleine, quoi, une réminiscence d'odeur très ancienne.
Vous parlez d'image olfactive, et tout de suite c'est très visuel ce que vous racontez.
Parce que, vous savez, Monsieur MacLeod en parlera également mieux que moi, mais dans la mémorisation... des odeurs, dans la mémorisation olfactive, il est préférable de coupler une mémoire visuelle en même temps. Ça permet de retrouver plus facilement les odeurs. Donc on a très souvent, en même temps que l'odeur, une histoire ou un paysage ou quelque chose qui fait ressortir depuis le fin fond du cortex, qui fait ressortir cette forme olfactive oubliée ou enfin classée quelque part dans le cerveau.
À 20 ans, vous êtes à Grasse, puisque votre famille est par là.
Oui, j'ai commencé à Grasse. C'est pour ça que j'ai commencé dans la chimie des parfums, bien avant de passer à la de passer à la composition. Réellement, j'ai refait à plus de 30 ans une école de composition pour changer de métier. Parce que c'est pas du tout le même métier d'être chimiste ou compositeur de parfums. C'est deux choses totalement différentes.
Et quand on apprend la palette de parfums, qui est énorme, on se fait des images olfactives pour chaque odeur.
Oui, c'est assez compliqué, c'est pas du tout la même chose. Des fois, ça peut être une image, des fois, ça peut être un texte, des fois, ça peut être enfin, un tas de choses. Il faut qu'il y ait une combinaison de plusieurs mémoires pour arriver à... Parce que lorsqu'on apprend quelque chose qui se trouve dans la nature, c'est très facile. On pense, si c'est l'odeur du jasmin, on pense à la fleur ou autre. Mais si c'est une molécule de synthèse qui n'a pas de... Vous savez, quand on apprend les aldéhydes de la série grasse, les C10, C11 ou C12, on n'a pas grand-chose pour se rattraper, là. Hein. Donc, il faut inventer quelques astuces pour arriver à le mémoriser et le retrouver, surtout.
Et entre le narcisse et la jonquille, comment vous faisiez ?
Entre le narcisse et la jonquille, vous savez, botaniquement, c'est très proche. Et olfactivement, c'est quand même assez différent, mais on peut se tromper. Donc, si vous voulez, le narcisse a une odeur florale, mais en plus a une odeur animale, sans la sueur du cheval. Donc, on arrive à retrouver et faire la différence avec la jonquille, qui a la même note florale, mais pas du tout la note animale. Du narcisse.
Patrick MacLeod, on parle d'image olfactive, c'est vrai comme expression,
oui,
image olfactive.
C'est un constat tout à fait objectif qui a été fait dans les années 80. On a pu pour la première fois à ce moment-là faire la carte des activités nerveuses dans le bulbe olfactif. Le bulbe olfactif, c'est le premier relais, le premier petit bout de cerveau qui reçoit le message venu du nez, qui lui est envoyé par les neurones récepteurs qui ont, eux, vu les molécules. Mais le bulbe olfactif, il ne reçoit qu'un message. Et ce message dessine une véritable image qu'on a pu photographier et qui, c'était une technique à l'époque très lourde, mais on y est arrivé, on était très fiers. Et ça n'évoque absolument rien de matériel ou de concret. Si on veut chercher absolument pour un peu réaliser une analogie avec la peinture d'un artiste, alors on est dans la peinture abstraite absolue. D'où le fait que les formes olfactives que vous évoquiez tout à l'heure comme étant peut-être un peu analogues à des images visuelles, c'est pas possible. On a d'un côté des tableaux abstraits qui se fabriquent dans notre nez, qui sont reconnaissables, mais qui sont l'identificateur de chaque odeur et qui sont absolument impossibles à décrire avec des mots. Donc on va faire des analogies, comme on pourra, des procédés mnémotechniques avec notre vécu pour que l'image, qui est véritablement concrètement une image que reçoit le cerveau, puisse entrer dans des mots. Le problème, c'est le cerveau, il se débrouille très bien, mais c'est au moment de parler à un autre cerveau par des mots que ça commence à être une espèce d'acrobatie.
On n'a pas de mots, pas de vocabulaire pour les odeurs, Maurice Morin.
On n'a que des mots imagés, que des analogies diverses.
Non, on prend le vocabulaire de la musique, de la peinture. Il n'y a pas vraiment de vocabulaire spécifique à l'olfaction, ou très peu, quoi. Et vous savez, ça date de très loin. C'est presque... Les religions monothéistes qui ont un peu écarté tout ce qui était olfactif. Alors donc, on n'a pas pu, dans ces 2000 ans, fabriquer des mots.
Moi, je pense que c'est pire que ça. Parce qu'on a vraiment progressé en neurosciences cognitives au point que maintenant, on sait très bien pourquoi il n'y a pas de mots. Et il n'y a pas de mots, ce n'est pas parce qu'on ne les a pas trouvés. C'est parce que nous avons des gènes qui sont très différents d'une personne à l'autre et qui codent pour des récepteurs olfactifs qui sont des protéines très différents les uns des autres. De telle façon que si on fait comparer, le truc très simple, deux odeurs à une personne, et on demande un petit verdict sur cette comparaison. On fait faire la même comparaison à une autre personne, elle va faire un verdict tout différent. Et si A était plus fort pour une personne, c'est B qui va être plus fort pour une autre, et avec un tas de nuances. Donc on est, on doit, si on veut vraiment en parler, se débrouiller pour se passer de mots directs.
Ça, c'est l'histoire du chalimard. Vous demandez à deux personnes, à une, c'est un parfum, quoi, il est frais. Ah oui, il est frais. Vous demandez à l'autre, il est chaud. Oui. Et alors, c'est vraiment l'exemple type, où il n'y a pas d'unanimité sur la description de ce parfum.
Et si je peux ajouter une autre chose que je dis souvent en public, alors je vais le dire une fois de plus aujourd'hui, c'est que les deux personnes qui ne sont pas d'accord ont raison toutes les deux. Ce sont deux vérités absolument incompatibles et absolument véridiques. Et ça n'existe pas dans l'histoire de l'humanité, cette histoire-là. S'il y a une vérité, il y a un juge, un dieu ou quelqu'un qui a un ayatollah quelconque qui dit ça c'est vrai, ça c'est faux. Et tout le monde est d'accord. Dans le cas des odeurs, il y a plusieurs vérités.
C'est une promesse, le parfum ?
Oui, c'est la promesse qu'il va se passer quelque chose. Je veux dire, quand une odeur vous envahit, le sillage d'une femme, vous savez, c'est... Je crois que c'est un terme de parfumeur, ça. Vous savez, je ne connaissais pas ce terme-là. Non, je trouve ça très chouette, très, très beau. Il y a le parfum brut qu'on ressent quand on... Et puis, il y a le parfum qu'on laisse, qu'une femme peut laisser autour d'elle quand elle a sur son corps ce parfum. Eh bien, ce sillage, est, quand on est dans le sillage de certains grands parfums, de certaines femmes... On a l'impression qu'au bout, on va trouver le paradis, quelque chose. Enfin bon, vous imaginez tous les fantasmes que ça peut faire venir.
Elle vit avec
numéro 5.
Elle aime les hommes quand ils font les boys. Elle vit avec. Dans son sillage, j'ai suivi la mode. Elle dort avec
numéro 5.
Tout simplement, oh quelle arrogance. Elle dort avec
numéro 5.
Car demain je lui porterai chance. Suis-je pour elle ça ou un parfum? Elle rêve avec
numéro 5.
Aldéhyde dérive d'un alcool. Elle rêve avec
numéro 5.
Sérigraphié par
serait votre portrait olfactif? Réfléchissez, vous poseriez quoi sur l'armoire ou sur le bord de la baignoire? Boris Rowe prend la photo in situ et c'est comme une nature morte qui change selon les âges de la vie. C'est un portrait sans personne, c'est le corps avant le corps. Mathilde a chaque chose pour chaque endroit du corps. Jérôme a seulement deux produits. L'odeur est invisible et pourtant elle colle à la peau. Boris Rowe la colle au mur. Il suffit d'un tag olfactif pour s'infiltrer et marquer d'une trace intime un territoire. Il sculpte la matière de l'air et avec insolence, il présente un monochrome blanc fait à la poudre nettoyante. Il s'empare de nos flacons, met en scène la façon dont on se façonne une parure et la peau que l'on se choisit. Boris Rowe, vous avez un peu de matériel pour réaliser un portrait olfactif ce soir. Ce sont les produits de Marie Payen. Qu'elle a bien voulu vous apporter pour réaliser un portrait olfactif en direct.
Bonsoir, et je l'en remercie. On remarque que Marie n'a pas beaucoup de produits, elle est relativement restreinte dans son hiver d'achat. Et je vais prendre sa photographie et après avoir consciencieusement étalé sur la table de Radio France ses produits qui se résument à trois, un parfum, un gel nettoyant et on est avec une Petit produit assez original de la part de Marie qui vient d'un Powerful Strength Line Reducing. C'est voilà. Probablement quelque chose de très féminin pour les nuits longues de chanteurs pour contrecarrer la fatigue ambiante. Donc après les avoir étalés, je vais les photographier avec, ainsi que son compagnon.
Ah non, c'est pas son compagnon, c'est notre réalisateur.
Ah, votre réalisateur, pardon.
Notre réalisateur qui est de l'autre côté de la vitre a aussi posé ces trois produits. Donc il y a deux portraits olfactifs.
Donc je vais prendre une petite photographie de chacun.
Donc ça, c'est Marie.
Marie, voilà, à droite.
Et ça, c'est Philippe Baudouin, notre réalisateur.
À gauche.
Qu'est-ce que ça peut dire sur les gens, ces portraits olfactifs, Boris Rowe?
Alors ces portraits, à mon avis, répondent à un paradoxe, justement ce paradoxe du paraître et à la fois de l'identité. On est sur des produits de mass market la plupart du temps, même le parfum aujourd'hui, est-ce qu'on n'est plus au parfum? Il faudrait demander à Maurice, les parfums d'il y a 100 ans qui étaient des œuvres vraiment très fortes. Maintenant on est sur des parfums beaucoup plus démocratisés et donc on est sur une histoire olfactive qui n'est plus la même en tout cas et qui est très influencée par le mass media. Donc on est à la fois dans une quête d'individualité à travers ses compositions et la multiplicité de ses produits, mais à la fois on est aussi dans une limitation des potentiels individuels de forme olfactive, personnelle.
C'est exactement ce que je me suis dit en les prenant chez moi. Je me suis dit, mais en fait, je vais en amener trois et puis ce sera potentiellement ceux de n'importe qui à côté de moi.
Et à la fois, ces parfums, tu dis ça, mais ces parfums te ressemblent malgré tout, ces odeurs te ressemblent. Donc on est dans ce jeu de similitude avec les autres, d'intégration avec les autres, et à la fois d'individualisation. Mais on n'échappe pas à son odeur propre, en fait. On échappe l'odeur propre de corps, on la masque à travers l'ensemble de ses produits, plus qu'on ne l'amplifie.
Vous avez raison, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des parfums.
Pourquoi vous avez arrêté?
J'ai arrêté dans une certaine parfumerie parce que c'est trop dirigé par le marketing. Il n'y a plus de latitude pour s'exprimer d'une façon très personnelle. Maintenant, il y a trop de paramètres à respecter dans tout le parcours pour arriver à sortir quelque chose de vraiment personnel et d'original.
Mais ça montre un peu notre paradoxe de volonté, d'individualité. On a tous l'impression d'être différents du voisin, mais on se rend compte effectivement là qu'on n'est plus, on n'est pas si différent que ça. Ou en tout cas, on enveloppe une peau, une forme olfactive qui nous rassemble dans un sens. Donc on peut dire que ça, c'est extrêmement intéressant. Dans un sens, on s'assimile à une communauté, mais est-ce que c'est sur de bonnes raisons?
C'est l'appartenance à la tribu, j'appelle ça.
Exactement. Et j'ai commencé cette série de parfums dans une ville, dans une sorte de reportage olfactif d'une ville multiethnique. Et justement, l'intérêt, outre de rentrer chez les gens et d'humer leur atmosphère intime, c'était de comprendre entre une personne harki, d'origine harki, et Madame France bien française, qui j'espère n'a pas voté pour les élections à l'heure actuelle, comment ils se ressemblent. Et justement, les univers olfactifs, on parlait de Chypre tout à l'heure, sont complètement différents. On a une autre culture. Et pourtant, donc, cette personne qui est immigrée dans un pays, est-ce qu'elle s'est intégrée, même, est-ce qu'elle s'est encore intégrée olfactivement? Si oui, avec quoi? Sur de bonnes raisons ou juste parce qu'elle a suivi la pub à la télé? Donc on est dans ces formes-là et ces portraits-là. Et à travers aussi ces portraits, il y a quand même quelque chose de se mettre au service de l'individu. Je trouve que c'est extrêmement important pour un artiste d'être humble par rapport à la personne à qui il s'adresse. Donc c'était aussi l'occasion d'une rencontre et d'avoir un travail assez classique, de tirer le portrait. C'est une chose les plus classiques de l'histoire de l'art. Et en fin de compte, on crée un lien en faisant ça. On crée un lien aussi en se projetant, en regardant chacun les portraits des autres. C'était une volonté de liaison.
Vous parlez d'uniformisation. Il y a aussi une autre de vos installations, qui est une espèce de guirlande de déodorants.
Oui, alors c'est le tour du monde en 80 déodorants Ushuaïa, papaye du Brésil, vanille de Polynésie. Donc, une volonté un peu de voyager sans avoir les moyens. Et à 3 euros le déo, effectivement, on se rend compte que les formes olfactives qui s'en dégagent et les odeurs sont évidemment complètement artificielles. On n'a rien à voir. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on voyage malgré tout sur un autre univers.
Vous savez ce qui est le plus difficile de prendre dans un parfum maintenant ? C'est de trouver le nom.
Oui, c'est ubuesque. On nous fait voyager sur des repères qui n'ont plus rien à voir avec la nature. Alors, c'est un fait, c'est pas grave. J'ai aucune mélancolie là-dessus. Il faut juste l'assumer, en fait. On est sur un rapport complètement détaché, mais on a une sorte d'inertie. On veut encore se rattacher à quelque chose de complètement inexistant. Donc, il y a un certain romantisme.
Il y a aussi une autre installation à laquelle je pense, qui est aussi avec des déodorants, sur laquelle on marche. C'est un long couloir avec des déodorants, mais placés à l'envers. C'est-à-dire que dès qu'on marche, on les active et on active le parfum de ces déodorants. Donc on a intérêt à aller très vite si on ne veut pas diffuser trop longtemps l'odeur trop désagréable.
Ben effectivement, je prends ma source d'inspiration dans les supermarchés. Et quand on voit déodorants Adidas développés avec des athlètes Victory League, on a déjà toute une aventure. Et là, on a l'imaginaire qui commence. Et on fait pchit. Et là, on se dit, c'est pas possible. On peut pas respirer avec ce type de produit-là. Et pourtant, ça marche. Ça marche même très bien qu'il faut courir. Donc, l'idée de renverser justement cette situation au moindre pas... Il faut aller de plus en plus vite. Une société est amenée à la compétition, à la vitesse. Et bien sûr, celui qui est derrière, le pauvre, lui, il est asphyxié.
Et pour les arrêter, vous avez fait un escalier de savon.
Oui.
Sur lequel on ne peut pas marcher. Enfin, on peut,
ah si,
mais
complètement. Peut. Justement, l'escalier de savon, c'est ma première exposition. Donc, j'expose dans une exposition collective. Et je me dis, va falloir faire rentrer les gens, garder son audience. Donc je réalisais l'escalier d'entrée de la galerie en savon de Marseille, entièrement recouvert, une sorte de basculement des habitudes où les gens étaient obligés de passer par cet escalier en savon, sachant qu'en fait un escalier en savon sec, ça ne glisse pas. Mais à un moment donné, une fois qu'ils avaient compris associer l'odeur à l'image abstraite, puisqu'on ne s'attend pas à voir les savons, tout d'un coup, déjà, il basculait, donc il s'accrochait. Donc, on est comme ça sur un basculement, et après, le vernissage, évidemment, une fois que tout le monde a un peu bu, personne ne voulait repartir. Donc, c'est très bien pour la médiation contemporaine.
Maurice Morin, vous dites qu'en tant que fils de paysan, il y a un moment où vous vous êtes questionné sur votre utilité, sur le sens que vous faisiez, et qu'une des réponses, vous l'avez trouvée dans la pratique artistique. Dans votre rapport à la pratique artistique.
Oui, parce que c'est toujours un peu mon combat avec la parfumerie classique. Et j'ai été beaucoup plus à l'aise dans toutes les expériences artistiques que j'ai faites avec l'olfactif que j'avais en main. Quoi. C'est-à-dire des pièces de théâtre ou des expositions olfactives ou autres. Et j'avais l'impression de pouvoir m'exprimer réellement beaucoup plus que dans une parfumerie, même ancienne, c'est-à-dire une parfumerie il y a 50 ans ou 40 ans, qui n'était pas ce qu'elle est maintenant. Hein, parce que maintenant, je suis bien d'accord avec vous sur les définitions. Là, c'est tout à fait ça. Mais on se rend compte maintenant que si on n'avait pas un support de publicité très fort, à ce moment-là, les gens fonctionneraient avec leur propre savoir et leur propre perception et reviendraient dans des conceptions totalement différentes et totalement normales, parce qu'elles ne sont pas normales actuellement. Là. Quand elles sont guidées et matraquées par un diktat de la publicité, c'est pas, y a plus de sensibilité personnelle qui entre en jeu. Et c'est pour ça que j'ai toujours préféré travailler sur un sujet totalement artistique, bien qu'on peut parler à l'infini de est-ce que la parfumerie est un art ou pas. Ça, moi, on a fait un bouquin une fois là-dessus où on a travaillé pendant 2 ans pour arriver à une conclusion. Actuellement, je dis moi que la parfumerie, je crois pas que ce soit de l'art. Par contre, il peut y avoir un art olfactif, mais pas le parfum.
Votre première création olfactive pour l'art, c'était en 71, et c'était la reconstitution de l'odeur de la forêt amazonienne.
Ça, c'était fabuleux. C'était avec un plasticien qui est Titus Carmel. Il avait fait des dessins de... Parce que je projetais l'odeur avec des diffuseurs, avec des humidificateurs d'ambiance ultrasons. Donc, il avait choisi un point X dans la forêt amazonienne et j'ai fait une reconstitution de l'odeur de la forêt amazonienne que je ne connaissais pas. Donc, il a fallu, par la lecture, par les impressions qu'on pouvait avoir, se faire une idée. J'avais fait 3 odeurs différentes. Une odeur au ras du sol, que j'avais baptisé cadavre de crocodile. C'était imagine. Alors, toutes les végétaux en décomposition, les animaux en décomposition, tout ça, une odeur assez désagréable. Ensuite, une odeur, si vous voulez, beaucoup plus à mi-hauteur, beaucoup plus végétale, beaucoup plus enfin vivante. Et une petite odeur de temps à autre, très, très florale, très jolie, qui était un peu la note d'espoir là dans tout ça, parce que le premier et deuxième étage n'étaient pas très gais. Donc voilà, il y avait ce côté gai par une odeur qui venait de temps à autre. C'était en stéréo olfactif. Tout n'était pas diffusé en même temps. Il y avait plusieurs... Mais c'était en 72, vous voyez, c'est pas hier.
Patrick MacLeod, est-ce qu'il y a des jeunes artistes ou des artistes qui viennent vous voir et qui se posent des questions sur l'image olfactive et sur justement l'image que reçoit le cerveau pour leur travail?
Moi, j'ai eu affaire plus à des architectes, par exemple, et pas véritablement des artistes, mais des gens qui voulaient créer quelque chose. Et ils étaient soumis à d'autres contraintes que les contraintes marketing dont on vient de parler, mais ça produisait les mêmes effets. C'est-à-dire les contraintes qu'ils subissaient, eux, c'était, par exemple, parfumer du béton. Et il faut que ça sente pareil pendant 10 ans. Et ça, c'est impossible. C'est techniquement impossible. Donc, ils se battaient avec ce genre de difficultés. Et le seul de mes correspondants qui a eu quelque chance, c'était un jardinier qui faisait des mixed borders. Alors lui, il a eu de la chance, il voulait que ça sente bon, il tenait compte de la direction du vent, etc., des saisons, et il était assisté par des gens qui connaissaient bien les végétaux en général, donc il arrivait à faire ce qu'il voulait. Et c'est à peu près le seul, vous voyez, de ces créateurs dans le domaine olfactif qui ont eu, enfin, j'y suis pour rien, j'étais plus leur confident qu'autre chose, qui ont eu une vraie satisfaction de créateur. En étant, vous voyez, dans les objets réels, dans le concret.
Est-ce qu'on peut avoir une image olfactive et une idée d'une odeur qu'on ne connaît pas, comme Maurice Morin, qui a reconstitué l'odeur de la forêt amazonienne sans jamais avoir mis...
Non, ça, ce n'est pas possible, mais on peut avoir... On est des hommes cultivés et on sait un tas de choses. Alors, on refabrique... Il y a plein d'auteurs en littérature qui ont décrit des lieux où ils n'avaient jamais mis les pieds. Et ça, c'est donc un petit exercice mental qui n'est pas particulièrement... ni difficile, ni spécial. Et l'idéal, c'est quand on montre l'odeur artificielle qu'on a fabriquée à quelqu'un qui la connaît en vrai. Et alors, si je peux juste dire un mot, il n'y a pas moyen d'imiter une odeur avec une autre. Ça peut à la rigueur marcher pour une personne, mais ça ne marchera pas pour tout le monde. Donc quand on veut faire évoquer véritablement un objet qui est caractéristique par son odeur, il faut absolument mettre les mêmes molécules que celles qui sortent du produit qu'on essaye d'évoquer.
Et encore à la même vitesse de sortie, et ainsi de suite.
Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'on n'est que dans l'imaginaire et l'interprétation du réel. Et c'est là où l'univers olfactif est passionnant, puisqu'il force l'abstraction, qu'elle soit... lié à un lieu ou lié à une histoire culturelle ou lié neurologiquement à une cartographie qui ne peut être qu'abstraite. Donc ça, c'est des enjeux en tant qu'artiste olfactif ou artiste tout court ou intellectuel et sont passionnantes, puisqu'on est sur un glissement inévitable vers une abstraction.
Comment vous faites pour reconstituer une image olfactive, Boris Rowe ?
Justement, c'est les phases de recherche. Pour l'instant, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la culture liée à l'univers olfactif, mais pas encore sur l'image olfactive. Et justement, avec un confrère de M. MacLeod, j'ai la chance de pouvoir travailler sur les deux prochaines années avec quelques neuroscientifiques pour essayer de trouver et cartographier cette image olfactive, essayer de trouver une réponse.
Et même l'esthétique qu'on cherche. Honnêtement, on espère qu'on va trouver les voies d'une esthétique olfactive. Mais les lois particulières de cette esthétique, les canons, ne peuvent pas être universelles comme pour d'autres esthétiques. C'est là qu'on bute pour l'instant.
C'est probablement une quête perdue, on verra.
Elle est perdue dans les termes où on l'imagine en se référant à d'autres esthétiques.
Exactement.
Mais on peut avoir confiance dans le pouvoir créateur de l'esprit humain.
On met beaucoup d'espoir en vous, Boris Rowe.
En plein d'autres.
Dans l'atelier intérieur, il y a des accompagnateurs. Ce soir, c'est la chanson de Marie Payen et Raphaël Chassin. Ce sont des chansons adressées à un seul. On a envie de dire des chansons de boudoir, personnelles. Des chansons à l'unité pour l'évocation en tête à tête d'une image à soi, partageable par aucun. En voilà une ce soir.
Qu'est-ce que tu fais ? Je pédale. C'est joli. Qu'est-ce que tu fais ? Je pédale. Je te dis. Ça, j'en ai sous la pédale. Et les déserts interdits, les plats, les bords de mer, mais j'envie les calmes, les esthètes, les promeneurs et les vieux.
Pas l'arrêter, je peux pas m'en passer. Enlève-moi Aujourd'hui, ce que nous étudions, c'est l'odorat pur, l'odorat typique et isolable, celui dont les sensations sont le plus souvent excitées par le passage de l'air à travers les premiers vestibules des voies respiratoires. C'est un sens d'une délicatesse et d'une acuité, d'une importance aussi, très variable selon les individus et même les races. D'une façon générale, l'odorat du civilisé, ou plutôt du citadin, est beaucoup moins développé que celui du sauvage ou simplement de l'homme vivant plus près de la nature. J'ajoute qu'en moyenne, je dis seulement en moyenne, il y a toutes sortes d'exceptions, l'odorat masculin est plus développé et plus sensible que celui des femmes. C'est peut-être pour cette raison que beaucoup de femmes se parfument trop. Enfin, vous savez encore que l'odorat de l'homme est absolument rudimentaire comparé à celui de certains animaux, le chien par exemple. Il est absolument impossible à l'homme de se représenter ce que peut être pour un chien cet univers de l'odorat, qui est probablement pour lui l'univers fondamental. De même que le sens olfactif est probablement pour le chien le sens le plus intellectualisé. L'odorat humain est beaucoup plus affectif et sentimental.
On reconnaîtrait une odeur comme on reconnaît un visage. Ce serait le temps de la révélation d'une photographie. Patrick MacLeod s'intéresse à la neurobiologie sensorielle. Il étudie nos sens et se consacre à l'olfaction et au goût. Il fait les ponts, les connexions. Il a fondé l'Institut du goût. Il peut se faire une image de notre cerveau et des odeurs qu'il reçoit. L'information est codée, transmise, puis intégrée, depuis la molécule jusqu'à l'odeur perçue et sentie consciemment. Il décrit le chemin. La stimulation chimique donne une odeur et donne une image. Patrick MacLeod, est-ce que les femmes ont vraiment un odorat moins développé comme...
Non, on s'est posé sérieusement la question, on l'a étudié avec des moyens très corrects, et la réponse est non, il n'y a pas de différence significative du tout dans le fonctionnement olfactif, ni la réception, ni la manière de le traiter au niveau du cerveau.
On est rassuré.
La seule différence qui a été réellement observée, et c'est plutôt anecdotique, dans des laboratoires d'évaluation sensorielle où on est obligé de donner des notes très précises aux odeurs qui sont présentées, les femmes donnent des résultats moins dispersés que les hommes. Mais c'est seulement parce qu'elles sont plus sages et qu'elles ont moins de testostérone, donc elles obéissent davantage et mieux au protocole.
Et par rapport aux animaux, notre odorat est beaucoup moins développé.
Oui, alors c'est intéressant parce que à la fois notre odorat en termes de capteur de molécules est beaucoup, beaucoup moins développé que celui de quelques animaux champions. Mais notre système de traitement d'information est tellement développé, lui, que nous avons des performances olfactives qui dépassent de loin celles des animaux les plus doués. C'est-à-dire, si on nous demande de pister, là, on ne va pas être très fort. Hein. Il suffit de marcher à quatre pattes et de flairer le tapis, on sent beaucoup de choses. Mais quand même, on n'est pas si efficace qu'un chien. Par contre, si on nous demande de distinguer deux crus de vins qui sont relativement proches, et bien on apprend à le faire très vite et très bien, un chien ne pourra jamais. Il pourra distinguer le vin de la bière, mais pas de vin entre eux.
Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises odeurs, des odeurs qui
Alors
sont
ça non, absolument, ça c'est un, comment dire, c'est un petit peu le credo initial de celui qui arrive dans un laboratoire d'odeurs. Bien sûr que non, il n'y a que des odeurs qui existent et l'étiquette bon ou mauvais leur est attribuée par certains flaireurs. Mais il traîne dans nos livres un peu scolaires une anecdote d'un jeune Américain qui avait une olfaction tout à fait bien développée. Et dans un test qui avait été fait à des milliers de personnes, il trouvait l'odeur du scatol la meilleure, la plus belle qu'il connaissait. Et le scatol, c'est une odeur très fortement fécale pour tout le monde, c'est très clair. Et donc, il faisait tâche, ce monsieur. Et on l'a examiné de nouveau. Et il a raconté qu'il vivait dans un petit coin perdu du Middle West et que son père était tanneur. Et il faisait le cuir au rez-de-chaussée. Et eux, la famille, ils habitaient au premier étage. Donc, c'était l'odeur de son enfance. C'était la plus délicieuse qu'il connaissait.
C'était grenouille.
C'était aussi intéressant, grenouille. Mais c'est une histoire vraie.
Maurice Morin, vous avez étudié les mauvaises odeurs du métro.
Oui, j'ai travaillé pendant quelque temps sur le métro avec toute une équipe très, très diverse. Il y avait des pharmaciens, des médecins, des architectes et tout, pour arriver à comprendre un peu l'odeur du métro. En fait, on exagère bien souvent. Quand on parle de l'odeur du métro, on exagère la mauvaise odeur, on l'exagère. ce qui se passe dans le métro, c'est presque un, je sais pas comment on l'appelle ça, c'est lorsqu'il y a une proximité de plusieurs personnes, quand il y a moins de 30 cm entre les personnes, il y a un sentiment de peur qui vient, et bien souvent ça se traduit par des mauvaises odeurs. En fait, c'est de la peur. Donc moi, j'avais imaginé, on l'a jamais fait parce qu'on a bien, comme beaucoup d'études, on le fait puis après ça, c'est pas de résultat. J'avais imaginé de faire des genres de jingle olfactifs pour capter l'attention, mais pas pour désodoriser ou réodorer le métro, simplement pour capter l'attention et faire marcher.
C'est quoi un jingle olfactif?
C'est-à-dire balancer sur une distance d'un mètre, par exemple, une odeur de menthe ou de lavande ou de rose ou de n'importe quoi, pour dire tiens, voilà, ça permet aux gens de penser un peu à autre chose et de moins avoir cette sensation de mauvaise odeur dans le métro, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de mauvaise odeur dans certaines stations. À la Madeleine, il y a une bactérie non pathogène qui se développe et qui balance du SH2, donc c'est vraiment une mauvaise odeur. Mais sinon, d'une règle générale, il n'y a pas une odeur énorme, enfin une mauvaise odeur énorme dans le métro.
Boris Rowe, vous avez imaginé une solution aussi pour le métro?
Oui, c'était un projet qui ne s'est pas réalisé, mais qui était pour tracer l'histoire d'une ville à Fribourg, qui était une ville... Fribourg est née de l'industrie chocolatière. Donc pour un peu traduire et raconter cette histoire de développement urbain et économique, j'avais voulu implanter sur chaque ligne de tramway un dispositif olfactif qui, quand le tramway avançait, faisait battre des petites hélices et laissait une trace olfactive. Et sur la première ligne, il y avait du chocolat, la poudre de cacao brut. Sur la ligne 2, de la poudre de lait, et quand la ligne 1 et la ligne 2 suivaient le même chemin dans la ville, on avait un peu de chocolat au lait qui apparaissait, jusqu'à un regroupement où on avait la totalité des parfums en outre, en un seul et même endroit. Mais je trouve que on est complètement paradoxal, parce que Monsieur MacLeod, vous venez de dire qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise odeur, et tout de suite après, on intègre la notion de mauvaise odeur. Donc on cherche paradoxalement toujours à caractériser entre bon ou mauvais les odeurs, alors qu'ils n'ont pas d'existence.
Absolument,
réelle.
Bien sûr. C'est comme on n'a pas de vocabulaire, on a quand même envie d'échanger avec nos semblables. Et sur le plan de l'hédonisme, c'est-à-dire du caractère agréable ou désagréable, les mots, il y en a très peu, mais ils sont parfaitement expressifs. Je dis ça sent bon, ça sent mauvais, ça pue, ou c'est délicieux. Tout le monde comprend sans aucune équivoque. Donc l'envie qu'on peut avoir de parler de ce qu'on sent, on ne peut guère la satisfaire dans la vie de tous les jours, et surtout avec des inconnus, que en parlant de cet aspect hédonique. Donc ça devient comme un poncif, comme je ne sais pas quoi dire à mon voisin, je lui dis « fait beau aujourd'hui ». C'est à peu près le même rapport très 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 distant, lâche, à l'odeur réelle.
Ce qui est intéressant, c'est que du coup tout le monde se comprend, mais tout le monde, c'est une source de malentendus perpétuels.
Absolument, absolument. C'est le drame de cette absence, cette impossibilité de vocabulaire qui fait que l'expérience olfactive reste une expérience intime, totalement intime et incommunicable. Donc je peux communiquer mes états d'âme, mais je ne peux pas communiquer ce que je ressens.
Et ce qui est du coup passionnant, c'est qu'en fait, peut-être qu'une des solutions, c'est juste de ressentir les odeurs et d'essayer de ne pas traduire par les mots, puisque les mots nous trompent sur cette notion de consensus. Est-ce qu'on pourrait...
Moi, dans un milieu extrêmement au ras des pâquerettes, je fais un petit peu de classe du goût avec des enfants. Et pour les initier à quelques arômes qui ont un intérêt alimentaire, on n'a jamais essayé de décrire ou de faire deviner par des mots. On leur donne à faire l'expérience de déguster ces produits-là. Et comme ça, chaque enfant inscrit dans sa mémoire personnelle le bon signal qui lui rappellera cette odeur-là, ce produit-là, toute sa vie.
Oui, parce que c'est le problème de sentir et nommer et sentir dans sa tête. C'est encore autre chose, ça. C'est plus complexe. Parce que si on sent l'essence de mandarine, on va dire c'est l'essence de mandarine. Si vous n'avez pas d'essence de mandarine sous la main, vous pensez à la mandarine et vous le sentez dans la tête. Et ça a été prouvé.
Bien sûr. L'imagerie cérébrale est identique.
Voilà.
Que vous sentiez la vraie odeur ou que vous vous en souveniez,
voilà.
Ce sera la même chose.
Ça,
mais
très
vraiment
important.
La même chose.
Pour l'expérience et la tentative des mots, il y en a eu dans la littérature des pages sur le parfum, mais quelques minutes avant minuit, j'ai choisi les mots du poète Walt Whitman, qui dans la chanson de moi-même écrit « L'odeur de mes aisselles est arôme plus subtil que la prière ». La suite est lue par Marie Payen.
Aux chambres de...
Je dois apprendre comment capturer les odeurs. Je veux savoir comment capturer les odeurs, les enfermer à jamais.
Aux chambres des maisons affluent les parfums. Les étagères inondent de parfums, dont j'inhale moi-même la suavité que je connais, que j'apprécie, sans me laisser pour autant circonvenir par leur distillation trop excitante. L'air inodore, qui n'est pas parfum, qui n'a pas goût d'une essence distillée, scié à ma bouche depuis toujours, j'en suis amoureux fou. Voyez, au talus sous le bois où je vais, j'ôte mon déguisement, je me mets tout nu. Je brûle de le sentir toucher ma peau. Mon haleine qui fume, onde, écho, susurrement, souche d'amour, fil soyeux, fourche et vigne. L'acte d'inspirer, d'expirer, le battement de mon cœur, le transit du sang avec l'air dans mes poumons, verte ou sèche, les feuilles dans mes narines, l'odeur du rivage, des rochers sombres de la mer, celle du foin dans la grange. La musique des mots éructés par ma voix qui se dissout dans le ressac du vent. Les intermittents baisers légers. Les brèves étreintes. L'embrassade. Le damier de l'ombre avec la lumière dans les arbres, aux branches qui oscillent doucement. Le plaisir de se retrouver seul ou dans la cohue des rues. Sur le versant d'une colline, au milieu des champs. La sensation de bonne santé. Le tri aigu du plein midi. Ma chanson au saut du lit pour saluer le soleil. Un millier d'acres, c'est beaucoup pour toi? La terre, pour toi, c'est grand? T'aura-t-il fallu toutes ces années pour apprendre à lire? Crois-tu donc, vaniteux, que tu comprends le sens des poèmes? Reste avec moi une nuit et un jour. Tu verras, tu maîtriseras l'origine absolue des poèmes. Tu maîtriseras la richesse de la terre et du soleil. Un million de soleils inconnus encore à découvrir. Jamais plus tu n'accepteras rien de deuxième ou de troisième main, ni ne verras par les yeux des morts, ni ne te nourriras des spectres livresques, ni ne regarderas rien par mes yeux, ni ne prendras rien de ma main. Mais, oreille ouverte à tous les vents, sera ton propre filtre.
Dernière trace, le tag olfactif. Ça sent très fort dans le studio, on étouffe, on va bientôt sortir. L'atelier intérieur numéro 35, le parfum c'est fini. Avant minuit, je dis merci à Yael Mandelbaum, Inès Debrune, Alice Ramon. Merci à Philippe Baudouin d'avoir assuré la réalisation. Et à la technique ce soir, merci à Jezabel Berdoula. Les portraits olfactifs de Marie Payen et de notre réalisateur Philippe Baudouin ont été pris en photo par Boris Rowe et seront sur le site de l'atelier intérieur dès les premières heures. Les ateliers de la nuit, c'est tous les soirs à 23h. Demain soir, portrait au revolver de Stéphane Bonnefoy et Céline Terce sur le dadaïste Jacques Rigaud. L'atelier intérieur du lundi, c'est fini. Le parfum s'éteint, mais c'est un sillage, c'est une fumée. Elle reste encore une fois passée. L'émission finie vous ouvre son sillage et vous emmène à minuit. Il est bon sur France Culture, il fait bon sur France Culture. On entre dans demain avec Alain Weinstein, du jour au lendemain.